Clap, le club lycéen amoureux du pastel.
Cinéma, couleur, pastel. Entrez, mesdames et messieurs, la séance vous attend.
Rendez-vous sur Radio Diwa, sur la fréquence 107.5
ou www.rdwa.fr.
C'est quoi ce rire ?
Bonjour et bienvenue dans l'émission CLAP, le club lycéen amoureux du pastel. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du film Revenir, qui est passé au pastel hier soir. Donc nous allons directement commencer donc, avec le décryptage de l'affiche par Agathe.
Bonjour. Alors, on peut voir sur l'affiche un gros plan sur les deux personnages principaux. Donc, en premier, il y a Thomas, joué par Nils Schneider. Et en deuxième, Mona, jouée par Adèle Exarchopoulos. Donc, Thomas est le personnage masculin qui regarde, du coup, Mona de profil, qui, elle, regarde vers le sol. Et il y a un arrière-plan flou. C'est-à-dire que l'affiche veut se concentrer en fait sur les deux personnages et les mettre en avant. Donc on se doute alors qu'en regardant l'affiche, que l'histoire va se dérouler autour de ces deux personnages principalement. On peut distinguer, malgré le flou, un milieu naturel. Les couleurs qui ressortent sont le bleu ainsi que le vert, pour faire ressortir un peu le côté, le milieu naturel un peu de la campagne. Puis la couleur bleue aussi de la chemise de Thomas. Il y a aussi du coup cet effet un peu de chaleur avec la lumière orangée sur les personnages. Parce que pendant tout le long du film, on a un peu cette impression de presque d'étouffement en fait. Les personnages sont presque en sueur. Enfin, ça fait vraiment penser à l'été. Le titre est sous le visage des personnages. Il est écrit en gros, en majuscule et en blanc. Ensuite, en dessous, on a le nom de la réalisatrice. Donc c'est un film de Jessica Palu. Puis encore en dessous, on a donc le nom des acteurs secondaires. Donc Patrick Dasum Sao, Hélène Vincent et puis d'autres. Et en plus petit, en dessous, les personnes ayant contribué à la production du film. À l'inverse, en haut de l'affiche, on retrouve les noms des personnages principaux, donc ceux qui sont présents sur l'affiche, comme Nils et Adèle que j'ai pu citer plus tôt. Et enfin, on peut voir aussi en assez gros les prix qu'a pu recevoir le film, donc, dont le prix de scénario au Festival de Venise en 2019 et le prix de jury, ainsi que le prix du jury jeune et enfin le prix du public.
Merci Agathe. Et Suzanne, peux-tu nous présenter le synopsis du film, s'il te plaît ?
Oui, Léon. Donc ce film est le premier long-métrage non-documentaire de Jessica Palu. Qui a décidé d'adapter le livre « L'amour sans le faire » de Serge Goncourt. Et c'est une adaptation qui est assez libre. Et donc le synopsis est « C'est la ferme où Thomas est né, c'est sa famille, son frère qui ne reviendra plus, sa mère qui est en train de l'imiter, et son père avec qui rien n'a jamais été possible. Il retrouve tout ce qu'il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd'hui, il y a Alex, son neveu de 6 ans, et Mona, sa mère incandescente.
Merci Suzanne. Donc nous allons pouvoir passer à la présentation de la réalisatrice par elle.
Donc Jessica Palu 2, ou Palu, je ne sais pas, qui est une réalisatrice assez jeune puisqu'elle est née en 1982 à Paris. Alors son père, c'est Hervé Palude. Et du coup, c'est un réalisateur, il me semble, un petit peu connu puisqu'il a fait Un Indien dans la ville en 1994. Je ne connais pas, mais le nom me dit quelque chose, donc peut-être que c'est quelque chose de connu.
Oui,
absolument.
Quand même un petit peu.
Bon, bah voilà.
Il y a ceux qui creusent, il y a ceux qui ont
un
pistolet.
Non, pas du tout. Ça, c'est le bon, la brute et le truand.
Ah,
bien essayé.
Bon, d'accord.
C'est différent.
Bon, en tout cas, c'est un film essayé. Peut-être un peu connu. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu de pistonnage, mais bon, je ne sais pas. Enfin, du coup, elle a eu quand même, elle a quand même du talent, j'imagine, puisqu'elle a. non, mais je suppose, hein, parce que elle a quand même eu. Elle a été sélectionnée pour son court-métrage Marlon dans 150 festivals, ce qui n'est pas rien.
Au César. Et,
oui, au César, en plus. César du meilleur court-métrage. Mmh. Et puis, elle a eu aussi le prix, du coup, Horizonti du meilleur film avec Revenir. Et avant, en fait, elle a été assistante réalisatrice. Elle a commencé en 2003. Et du coup, dans quel film elle a été assistante réalisatrice? Et ben dans plusieurs films, genre beaucoup, mais du coup, j'en ai noté que quelques-uns. Il y a Innocence the Dreamer avec Eva Green, qui est une actrice vraiment belle et vraiment talentueuse. Il y a aussi Marie-Antoinette avec, du coup...
Sérieux ?
Ouais, Christine Dust, qui est aussi une actrice remarquable, et Jamie Dornan, le fameux acteur de 50 nuances de gris. Je sais pas si c'est une référence en or, mais voilà.
On ne juge pas.
Et dans le film Je vais bien, ne t'en fais pas, une histoire vraiment sympathique et une bande originale plutôt sympa aussi. Voilà. Et du coup, bah, on peut se dire qu'elle a un petit peu un passé dans le cinéma qui est assez intéressant et que c'est probablement une réalisatrice qui a de l'avenir. Voilà.
Merci Zaël. Donc on enchaîne avec donc Tao et Floris qui vont nous présenter les acteurs-actrices ainsi que les personnages principaux.
Tout d'abord, il y a le personnage de Thomas, joué par Nils Schneider. C'est un personnage qui arrive un peu comme... un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, parce que voilà, il arrive pour, il revient dans son village après une longue absence de donc 12 ans, donc il est parti à l'âge de 18 ans de son village et pour habiter au Canada, ce que son père ne lui a jamais pardonné. Donc voilà, il arrive avec une certaine appréhension puisqu'il n'a pas revu sa famille depuis 12 ans. Donc c'est un personnage qui est assez... il parle pas beaucoup, il est un peu introverti finalement. Il est assez aussi différent des autres personnages. Et il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus en quelques heures et ça va beaucoup le... Enfin, il va s'en prendre un peu plein la tronche. Ça va être un peu dur pour lui ce retour. Mais heureusement, grâce au personnage de Mona, il va réussir à se guérir.
Donc du coup le personnage d'Alexis, hein, Alexandre.
Non, c'est plutôt avec le personnage de Mona.
Bah, les deux.
Ils s'aident
tous les deux. C'est un peu celui qui, comme c'est l'enfant, c'est, on va dire.
Le lien.
Oui, c'est le lien,
mais je veux dire, il est quand même un gros. Enfin, je veux dire, c'est.
Tout, c'est l'enfant.
C'est celui qui est cité en premier quand.
Oui, mais je dis pas que c'est.
Mais elle en est pour quelque chose.
Je dis juste qu'avec Mona, il va en gros. Mona et lui, c'est deux personnages qui sont très, on va dire, brisés. Et tous les deux vont se faire du bien pour... Enfin, pas faire du bien dans ce sens-là,
oui,
mais...
dans la
bien,
bouffe.
Même quand ils restent ensemble et qu'ils marchent, voilà. Ils vont tous les deux s'aider à se reconstruire, quoi.
Quand tu dis qu'il est introverti, moi, je suis pas forcément ultra d'accord avec ça. Il arrive quand même comme... avec un certain charisme, il s'impose comme l'homme de la maison directement, puisqu'il n'y a plus personne dans la maison. Mm. Juste une femme et un enfant, et du coup, il a... énormément de choses sur les bras. En même temps, il doit recoller les morceaux avec son père, avec sa mère. Il doit apprendre à connaître...
Je voulais te dire un peu introverti dans le sens où il arrive et voilà, il est comme ça, il revient depuis très longtemps et je trouve qu'il parle pas trop, il s'ouvre pas forcément beaucoup aux gens et tout ça. C'est plus dans ce sens-là que j'en...
Ça passe aussi beaucoup par...
le regard, oui. C'est ce que c'est comme la réalisatrice l'a signifié, c'est que c'est... c'est un personnage qui n'a pas besoin de parler pour nous transmettre les choses. Et je suis assez d'accord, puisque c'est vrai qu'il a une forte présence scénique.
C'est pour ça qu'elle l'avait choisi. Elle expliquait, oui, du coup.
Quand il allait pleurer, ça faisait vraiment genre...
Oui, voilà, c'est boys aussi un don't personnage cry. On peut dire que les hommes, dans l'idée, ce serait en mode on pleure pas, on est des bonhommes et tout. Et lui, je trouve qu'il vit vraiment ses émotions, quoi.
Ouais. Voilà. Avec ses yeux qui bougent comme ça, il fait là.
Merci
Muriel. On peut pas voir du coup.
Il est pas moche du tout.
Ah. Il a des gros muscles, très bien voir.
Franchement, tu m'as regardé de beauté. Anyway, du coup, Thomas Moreno, pardon, est joué par Nils Schneider. qui est un acteur franco-canadien. Je ne sais pas s'il a un accent canadien.
Il peut l'avoir. Dans Les Amours Imaginaires, il l'a, par exemple.
Très bien.
Parce que après, c'est aussi, ça se déroule au Canada.
Oui, mais il a l'accent, du coup, quoi. Il enfin, peut l'avoir. Oui.
Ouais.
Et du coup, en 2007, il reçoit le César du meilleur espoir masculin pour le film Diamant Noir. Premier film, d'ailleurs, dont il est la tête de l'affiche. Donc, on a parlé aussi de Mona, qui est jouée par Adèle Exarchopoulos.
Exarchopoulos, oui.
Mal. Exarchopoulos. Bref, c'est une actrice, elle, française, qui est révélée en mai 2013 par le film La vie d'Adèle, d'Abdelatif
Kechiche.
Exactement. Du coup, à Cannes, en 2013, il y a Steven Spielberg, qui est le président du jury du Festival de Cannes, qui obtient une dérogation exceptionnelle afin qu'elle reçoive la Palme d'Or avec le réalisateur ainsi que sa partenaire Léa Seydoux. Et quelques mois plus tard, elle reçoit aussi le César du meilleur espoir féminin lors de la 39e cérémonie des Césars.
Bien.
Donc pour continuer juste sur le rôle de Mona, on peut dire que... qu'elle se retrouve un peu... on la sent un peu oppressée par son village, le fait que c'est très dur d'avoir un avenir. Mmh. Et qu'elle se retrouve avec ce petit garçon sur les bras qu'elle a eu assez jeune, on peut le dire. Donc du coup, elle sait pas trop s'y prendre avec son garçon, donc Alex. Et finalement, l'arrivée de Thomas va l'aider à
être plus maternelle.
À être plus maternelle et ouais, à apprendre à s'occuper de son enfant. Et...
Je pense que c'est quand même une bonne mère.
Non,
même.
C'est, non,
tu
c'est une bonne
tu
mère,
disais
c'est
pas que c'était une mauvaise mère.
Elle,
vois, en même temps, elle dit bien qu'elle essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs que sa mère qui l'a abandonnée. Bon, ça reviendra peut-être plus tard quand on parlera des thématiques. Mais voilà, elle essaye quand même de faire des efforts et peut-être que c'est aussi... Une preuve qu'il faut absolument dans une famille un papa et une maman.
Non, puis l'arrivée
non, de présence.
Ouais, de présence, voilà.
Oui, l'arrivée
Parce
de Thomas,
peut pas
en
tout
fait.
Faire toute seule.
Ensuite, il y a le rôle d'Alex.
Oui, donc Alex qui est donc l'enfant de... Comment il s'appelle
Mona.
Hein oui, de Mona.
Et Mathieu.
Et de Mathieu, voilà, le frère de Thomas. Le frère qui est décédé dans des circonstances que je vous laisse découvrir. Donc cet enfant, je l'ai trouvé très mature pour son âge, voire un peu trop. C'était ouais, limite un peu louche des fois.
Ben, la réalisatrice disait que l'enfant, enfin l'acteur, du coup, je sais plus comment il s'appelle, Roman, l'était aussi et que ça collait bien avec le personnage. Enfin que c'était.
D'accord.
Mais, puis même, c'est en fait, c'est. Elle expliquait aussi que c'était celui qui parlait le plus et du coup, c'était un peu lui qui faisait ressortir un peu les idées. Il disait. Enfin oui,
peut-être
en tout cas, il reste très lucide et mature.
Peut-être qu'il
quoi.
Exprimait un peu ce que tout le monde cachait un peu, ce qui était un peu tabou. Lui, il
oui,
le disait clairement
que,
comme
coup,
un enfant. Quoi.
Ben, par exemple, il met directement à plat les... Enfin, genre, il touche toujours là où ça fait grave mal,
ça,
en
oui.
mode « Quand est-ce que tu vas partir ?» par exemple. Ou d'autres choses comme ça, genre « Quand est-ce que reviendra mamie ?» ou des choses comme ça. Qui, voilà, il vise... Enfin, ça, on peut retrouver vachement, je trouve, vers les enfants. Enfin, en général, ils ont la capacité de... d'appuyer là où ça fait mal, justement, où les adultes...
C'est des questions innocentes.
Voilà. Mais je trouve que lui, il avait une certaine maturité qui était presque un peu louche. Mais bon, visiblement, l'enfant était comme ça, de base.
Bah, la réalisatrice a eu un coup de cœur pour cet enfant, donc qui s'appelle Roman.
Roman Kuster à chaise.
Exactement. Et donc, elle voulait absolument que ce soit lui qui joue Alex, alors qu'il a deux handicaps. Il est myope et qu'il a un très fort caractère, dit-elle. Mais
elle appuie sur
le fait qu'il avait vraiment une particularité à l'écran. Je ne sais pas si ça se dit.
Voilà, je trouve qu'il représente un peu la vie dans ce monde, milieu un peu presque pas austère mais un peu triste, un peu voilà. C'est ce qui va donner un peu l'énergie au personnage de Mona, un peu l'envie de vivre et de se battre quoi. Parce que sinon enfin, avec tout ce qui leur arrive, on pourrait se dire en fait ils peuvent tout lâcher et voilà et un peu Alex un peu va dire leur
étincelle d'espoir.
Oh, c'est beau.
Sparkle of hope. In English.
Merci Théo.
Oui, non, mais parce que même si eux n'ont pas réussi, l'enfant a encore toutes ses chances.
Exactement.
Ensuite, on a Patrick D'Assumpção qui joue le rôle de Michel Moreno. Et c'est un acteur français.
Voilà, donc le rôle de Michel, on voit que c'est... ça fait vraiment voilà, les vieux dans les patelins, quoi, en mode accroché à leur vieille tradition. Il en veut à son fils parce que c'est l'aîné qui est parti de la maison, alors que dans les traditions, c'était censé être lui qui devait reprendre la ferme. Et on voit qu'il en veut extrêmement pour ça, et il va l'accuser de tous les maux. Mais lui, il est très buté, il est très avec ses idées, et voilà.
Il y a ensuite sa femme, Catherine Moreno, jouée par Hélène Vincent, qui est une actrice française, ainsi qu'une metteuse en scène. En scène française.
Il n'y a pas grand chose à dire sur elle, elle est dans son lit.
Elle attend.
Non mais si, elle redonne un peu d'espoir, elle.
De douceur. Et en fait, c'est la dernière chose qui unit donc, le fils, donc Thomas, et le père.
On peut voir un lien entre ces deux personnages. Et Michel, à partir du moment où elle part, et ben, ça va mieux entre eux.
Il y a ensuite Marco, joué par Franck Fallis.
Moi, lui, c'est un paysan. Oui. Très bien de ces vaches.
Lequel?
En vrai, il y a donc, ces deux acteurs, donc, Franck Fallis et Jonathan Cousinier, qui sont donc deux frères qui travaillent dans la ferme.
Dans une autre ferme,
pas la même. Et eux, c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'ils sont passés donc, en bio et qu'on peut voir un peu la modernité de...
Mais surtout, ce qui est intéressant avec ces deux acteurs, c'est que eux, ils ont vu toute l'histoire,
ouais,
en fait.
Ils
connaissent l'histoire de la famille, et du coup, en fait, c'est eux qui nous apprennent avec des doubles énonciations ce qui s'est passé pendant les 12 ans.
C'est vrai, moi, je me suis intéressée à l'agriculture là.
Oui, c'est des sujets, de.
Oui, ça fait vraiment le père avec ses idées un peu vieilles et tout ça sur l'agriculteur où il faut... oui, fun. Mais bon, on ne juge pas là.
Mais on apprend que ce n'est qu'un passage et que c'était une faiblesse un temps et qu'il n'est pas profondément...
On raconte tout le film en national. Non mais bref, du coup, il passe à l'agriculture bio et on peut voir la jeunesse. Voilà.
Moi, ça m'a choqué un des fermiers parce qu'il dit s'il avait. Il ne dit pas s'il aurait. Voilà, c'est tout.
On dit s'il avait.
Je sais, mais c'est le genre de personnes qui sont aptes à faire des fautes très vite.
Enfin, Gabriel.
Je sais que je suis vraiment pas très Charlie en disant ça, mais. Voilà, j'ai noté ça.
C'est vrai.
Vous avez noté que l'enfant parlait trop bien, j'ai le droit de noter mon truc. Moi, je trouve qu'il parlait normalement, l'enfant.
Non, il y avait des maladresses. Il y avait des maladresses de Mona, par exemple, dans le vocabulaire français qui étaient un peu.
Comment ça?
Mais qui était bienvenue, qui était le...
Oui, oui, elle parlait un petit peu vulgairement.
Bah oui, dans le personnage.
Oui. Bah oui, ça, dans le personnage, ça va bien, mais c'est parce que j'ai pas compris, tu dis qu'en gros...
Mais les fermiers ils ont un niveau de culture, Gabriel, parce que ils sont en bio. Ensuite,
ça,
ils sont... Et ils sont pas de droite, enfin, à mon avis, ils
réfléchissent
quand même un petit peu, je vois pas pourquoi ce serait des incultes.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zaël. Floris, est-ce que tu peux enchaîner donc avec les thématiques abordées dans le film?
Donc ça, c'est on va dire un peu mon point de vue personnel, parce que bon, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord, parce qu'il n'y a pas 36 000 thématiques, bref. Exactement. Donc moi, j'ai remarqué que on va dire, les thématiques qui sont pour moi le plus ressorties, c'est la relation entre un père et son fils, enfin les relations père-fils, la mort, l'amour, la famille, l'isolation des campagnes.
La précarité en campagne.
Ouais. La précarité, le désespoir aussi, mais l'espoir également.
Et puis, les charges morales et physiques des paysans, en fait, dans les campagnes actuellement.
La boue.
Beaucoup de boue. Les oliviers aussi.
Et la nostalgie familiale aussi.
L'importance du patrimoine, tout ça. Puis le fait de passer à d'autres traditions et d'abandonner un peu les trucs de... Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est toujours l'aîné qui doit reprendre la ferme. Si tu barres ton village, t'es un peu le mouton noir de la famille. Faut casser ça et voilà, c'est un peu tout ça qui revient dans ce film.
Je vais continuer donc avec les aspects techniques du film. Donc le film est tourné en plan très court. Donc la caméra est mobile, elle est tenue à la main probablement.
L'épaule.
À l'épaule. À l'épaule. Merci Agathe pour la précision. Il y a peut-être plus de travelling. Je n'en ai vu qu'un. Donc sur une scène en moto, et c'est le seul moment où il y a une musique qui est en bande originale. Donc il y a du coup le film est très silencieux, il y a très peu de dialogue, et du coup les bruits, donc les claquements de porte, les bruits de voiture, de moto, tout ça sont très accentués, et il y a une espèce, enfin tous les personnages vont droit au but entre guillemets, vu que ils parlent très peu, donc leurs discussions sont très simples et concises. Il y a aussi beaucoup d'ellipses, par exemple Thomas qui arrive à l'hôpital, on le voit sortir, monter sur sa moto, et tout de suite on est le lendemain matin, donc ça c'est assez étonnant comme manière de réalisation, mais en fait ça montre d'une certaine manière que tout se passe toujours de la même manière et qu'on n'a pas besoin de leur montrer plusieurs fois vu que c'est répétitif en fait. Alors
je reprends. Ouais, je trouve que les plans qui se sont près du visage ça oppresse encore plus
ouais je suis d'accord,
et que plus le film avance plus je trouve que c'est pris de loin, enfin c'est peut-être une impression possible. Mais
ensuite donc tous les il y a très peu de lieux. C'est-à-dire qu'il y en a moins de 15 ou 10, enfin 10 ou 15. Et en fait, à chaque fois qu'on revient, contrairement à dans Le Miracle du Saint Inconnu, à chaque fois qu'on revient sur ces lieux, on a des plans différents. Et du coup, ce qui fait qu'on découvre la maison familiale, jusqu'à la dernière scène, en fait, on découvre des nouvelles pièces et des nouveaux angles de vue. Et du coup, en fait, toute cette maison, en fait, elle nous est inconnue. Et c'est pareil avec chaque lieu qui nous sont présentés.
Moi, pour les gros plans, j'ai trouvé que c'était surtout des sentiments qui ressortaient, pas une oppression. On voyait vraiment les personnages au plus proche, au moment où ils se sentaient le plus tristes, parce que c'est principalement de la tristesse qu'ils ressentaient.
Et en plus de ça, le fait que les plans soient assez serrés et on n'ait pas de grande vision large, ça nous enferme en fait un peu dans cette solitude collective de tous les personnages. Donc on peut continuer donc avec Gabriel pardon, qui va nous donner une analyse du genre.
Oui, alors le genre cinématographique que j'ai trouvé, c'est le drame ici. Donc le drame, ça va être un film qui présente une situation non épique, donc qui va se passer dans un contexte réaliste, sérieux, et qui inspire plus la tristesse que la joie ou le rire. Le drame, ça repose sur un scénario qui aborde avec le moins d'humour possible des thèmes plutôt graves comme la mort, la misère, le viol, la drogue, la précarité. Donc c'est des films douloureux, révoltants, injustes, et ils vont traiter donc de faits réalistes, des faits d'actualité. Donc ici, ça va être le cas, ou alors des faits historiques, comme un film sur la Seconde Guerre mondiale ou quoi que ce soit.
Juste 1917, parce que...
Oui. 1917, très bon film, on l'a déjà conseillé, on le reconseille. Donc le drame est devenu très populaire ces dernières années, notamment avec des séries. Donc comme exemple, j'avais trouvé Prison Break et Dr. House, mais il y en a vraiment beaucoup. En même temps, il y a eu l'avènement, il y a quelques années maintenant, c'est plus trop à la mode, des films catastrophes, donc 2012 ou des trucs comme ça, ou Titanic, mais c'est un peu vieux ça. Enfin, il faut dire que le drame, ce n'est pas forcément une tragédie, donc ce n'est pas forcément un film où un des protagonistes meurt à la fin, ou plusieurs protagonistes. D'autant plus que la tragédie, elle existe plutôt dans la littérature et dans le théâtre, et on n'en voit pas beaucoup au cinéma ou sur l'écran, quoi.
Merci Gabriel. Est-ce que Suzanne, tu peux nous faire une courte présentation des conditions de réalisation de ce film ?
Oui, eh bien d'abord on peut parler de l'écriture du film. Donc elle a écrit ce film sur plusieurs années, et par exemple elle a sorti plusieurs courts-métrages durant l'écriture du film. Elle a écrit le scénario avec Philippe Lioré et Diastem, et elle a tourné donc ce film dans la Drôme, quel beau pays, entre Valence et Montélimar, donc pour trouver cette ambiance d'été, de chaleur et de campagne. Et donc la ferme où elle a tourner ce film a une histoire un peu étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais en fait, les habitants de cette ferme avaient une histoire qui était à peu près similaire avec celle du film, puisque le père, enfin le fils, est parti pendant des années et le père n'a réussi à lui pardonner qu'au bout de 2 années. Donc il y a aussi un conflit père-fils. Et donc voilà, c'est son premier long métrage de fiction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est aussi le premier long métrage du chef opérateur, Victor Seguin.
Merci Suzanne. Alors Zaël, je te laisse présenter la musique que tu as choisie.
Alors déjà, il faut savoir que il y a très peu de musique, comme l'a dit déjà Léon tout à l'heure. Il y en a 4 en tout, donc une très courte dans un chant, 2 musiques un peu de suspense, un peu angoissante, et une musique qui est dans une boîte de nuit. Donc c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc c'est Photomaton de Jabberwocky. Donc c'est un groupe vraiment qu'on apprécie tous au sein de Clap. On était contents de trouver cette musique dans ce film, même si c'était pas super réaliste. Et donc, on peut aussi remarquer qu'il y avait beaucoup de silence, beaucoup de bruitage et des dialogues, enfin en fait, qui étaient beaucoup plus importants qu'une partie musicale. Donc, on vous laisse avec la musique.
It seems to Donc en fait, j'ai fait des petites recherches pour savoir comment la musique avait été faite dans ce film. Donc c'est deux personnes qui ont fait la musique. C'est du coup Mathilda Cabezas et Augustin Charnay. Deux personnes qui font partie d'un groupe qui s'appelle After Marianne. Et en fait, j'ai contacté Mathilda Cabezas sur Instagram parce que j'avais envie. Et puis voilà. Et donc, elle a été très adorable et elle a répondu à mes questions. Donc, vous pouvez déjà, vous pouvez par ailleurs aller voir son compte Instagram qui s'appelle thisisfrom.mathilda. Donc, elle m'a expliqué qu'elle avait travaillé avec la réalisatrice sur le court-métrage Marlon, que la réalisatrice a fait avant. Ils ont donc travaillé dans un salon studio, c'est ce que j'ai compris, et ils ont choisi ensemble, du coup, avec la réalisatrice, les passages qui nécessitaient un apport musical. Donc Jessica avait demandé une musique pure, mélancolique et planante. Donc elle est très peu présente, mais c'est ça qu'elle est censée représenter. Et donc les morceaux devaient plaire à la réalisatrice et au producteur. Donc il y a eu plusieurs retouches, et du coup c'est de la composition, voilà. Donc la voix de Mathilda, du coup la fille que j'ai contactée, apparaît dans une scène, donc la scène de la moto dans un champ, assez discrètement, et dans le générique, voilà. Donc Jessica voulait une montée en puissance pour la musique du générique, qui finisse par un soulagement face au secret, au tabou et au non-dit du film. Donc vous pourrez constater cela en allant voir par vous-même le film, voilà.
Merci Zaël. D'ailleurs, pour aller voir le film, vous pouvez vous rendre au Pestel vendredi à 16h30, samedi à 20h30, et voilà.
Je voulais juste terminer sur le fait que, au tout début, je savais pas à quoi m'attendre pour le film, mais ça m'avait fait penser à juste La fin du monde de Xavier Dolan, que je conseille. Oui,
Ou même, même Tom à la ferme.
Surtout ça. En fait,
elle le dit elle-même que...
Oui, elle en parle. Elle voulait pas refaire, en fait, dans le roman. Dans le roman, il est malade, il va annoncer qu'il est mort, et en fait, elle voulait pas.
Qu'il est mort, c'est pas du monde de Xavier Dolan.
Non, qui va mourir. Oui.
Bonjour, je suis mort. Ça faisait un peu trop juste la fin du monde de Xavier Dolan.
Mais en tout cas, on vous conseille tous les films de Xavier Dolan. Voilà.
Merci à tous.
Est-ce que vous avez tous une amie. Non. Est-ce que personnellement, vous pouvez donner peut-être un avis sur le film pour ceux qui l'ont vu? Floris, tu peux commencer.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film... Bon, c'était sympa, mais il n'était pas exceptionnel. Mais il était bien... Ouais, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, donc je vous dis, allez le voir, parce que franchement, il m'est bien. Pas forcément, mais il est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas le film de l'année.
Ben, franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les acteurs, tout ça, l'ambiance, enfin... Il m'a pas déplu, et puis on n'a pas le temps de vraiment s'ennuyer, parce que oui, c'est un film qui dure 1h15, donc c'est... Ouais,
c'est bon, faut chaud.
J'ai pas trouvé non plus qu'il était trop court, donc c'était... Enfin, j'ai trouvé ça bien.
Non, c'est vrai qu'au niveau du temps, je suis d'accord avec Agathe, franchement, il passe bien.
Puis il est quand même assez réaliste, c'est pas mal, voilà.
Ah oui, les décors sont très beaux, et on a l'impression d'avoir chaud, et ça fait du bien.
Y a plein
Moi, j'ai beaucoup aimé, les thématiques abordées dans le film, donc la précarité de la campagne, et du coup, j'ai beaucoup aimé ce film, voilà.
Alors moi c'est pareil, les thèmes abordés ça m'a plu parce que je trouve que la précarité de l'agriculture c'est hyper important comme sujet en France parce que c'est quand même le deuxième métier qui note le plus de suicides en fait. Et à part ça, bah oui il est sympa mais c'est pas le film de l'année. Je pense qu'il y a encore des maladresses au niveau de la réalisation.
Ouais, mais pour un premier film, c'est quand même...
Voilà, pour un premier film, il est sympathique.
Moi, je trouve que c'est sympa.
Et je le recommande quand même, parce que je pense qu'il peut beaucoup plaire, parce que les spectateurs avaient été très émus. Vous verrez ça dans les micro-trottoirs qu'on a fait. Voilà. Et puis pour Gabriel, le dernier.
Moi, je pense que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les acteurs faisaient un très bon boulot. J'ai aimé les couleurs. Je trouve... Ça peut être une critique et un avantage qu'il aborde le sujet de la précarité paysanne pas dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on voit certains aspects mais on ne les pousse pas jusqu'au bout, on n'en voit pas toutes les facettes. Voilà.
Oui, ça va bien. Vous l'avez vu ce film vous-même ?
Oui, on était dans la salle.
Vous étiez dans la salle ? Mm-hmm. Et bien, je peux vous poser des questions aussi. Est-ce que vous avez été ému ? Également.
Le rôle ça
alors oui ça suit, on a été
ouais parce que c'était un film très émouvant sur la réalité paysanne de nos jours et c'est Ouais, c'est pas facile d'être paysan en Dromardèche de nos jours avec voilà.
Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que sur ce point-là, ça a été émouvant, je trouve.
Ouais, quand vous spécifiez en Dromardèche, moi, c'est vrai, je m'imaginais pas non plus qu'il y avait aucun problème dans la Drôme, mais c'est quand même assez frappant que ça arrive aussi près de chez nous, quoi. D'habitude, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais ou
ouais.
Dans des lieux un peu loin, et là, c'est vraiment...
Et là, c'est la porte à côté. Hein.
Ouais. C'est Valence, quoi.
Mais c'est Valence, et ça peut être, ça pourrait être ici, c'est juste, voilà. Leur ferme, apparemment, c'est juste de l'autre côté du Rhône, ouais. Mm. Ouais.
On peut parler de la performance des acteurs, vous en avez pensé quoi?
Performance des acteurs, il n'y a rien à dire, c'était ça qui rendait le film très émouvant également. Ah oui, c'est une belle histoire d'amour, belle histoire de famille. Mm.
Voilà. Et l'acteur qui est très jeune, mais qui joue super bien, moi, je trouve.
Tu parles de l'enfant?
Ouais.
Oui. Ah oui, l'enfant, oui, j'ai vu son nom au générique, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est magnifique. Mm. Il est magnifique et c'est lui qui est, c'est pour lui aussi qu'on a envie que ça se passe bien pour la suite.
Et du coup, vous avez aimé le film en général?
Ah, oui, complètement, oui. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Puis allez boire un coup pour vous en remettre.
Quelles sont vos impressions directement en sortant du film comme ça?
J'ai été assez émue. Je trouve que le début était un peu long. Et en fait, voilà, vers le milieu du film, on comprend un peu l'histoire familiale. Et du coup, ouais, la fin du film était assez émouvante.
C'est quoi l'élément de rupture un peu pour vous?
Je pense que c'est au moment où on apprend qu'en fait le frère du personnage principal s'est suicidé et que l'histoire en fait que le premier ami a raconté n'était pas vraie. Là, je pense que ça change la donne.
Ouais,
et puis ça modifie, c'est ça qui va peut-être modifier aussi son propre comportement par rapport à son père et aux autres personnages.
Là où avant on entrevoyait la précarité paysanne, là on l'a vu dans son entièreté et dans le suicide qui est vraiment extrêmement important chez les agriculteurs aujourd'hui.
J'ai exactement pensé à ça pendant le film, ouais, parce qu'on en entend beaucoup parler, surtout maintenant. Mm.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça, c'est plus le fond. Et au niveau de la forme, vous avez aimé comment c'est tourné, comment les acteurs jouent, comment les bruitages, la musique, tout ça?
Oui, alors, je trouve que c'était tourné assez proche des acteurs. Donc, ça rendait... vraiment, on bougeait avec les acteurs. La manière dont c'est tourné, c'était assez agréable. On était vraiment projeté dans le film. Peut-être que c'est parce que je m'en souviens pas, mais j'ai l'impression que la musique était pas trop présente, ce qui était pas mal aussi.
Deux, trois.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça laissait vraiment la place au dialogue, vraiment l'observation des acteurs. Donc oui, la manière dont ça a été tourné est assez intéressante.
Et le jeu des acteurs, peut-être?
Alors je sais pas si je suis très objective, mais honnêtement, je suis venue voir le film parce que j'adore l'actrice. Ah. Je connaissais pas cet acteur, mais il dégage quelque chose d'assez émouvant, donc assez intéressant. Donc pourquoi pas voir d'autres films avec lui, mais oui, très intéressant.
Et ben, il est dans certains films de Xavier Dolan, il me semble.
D'accord. Oui.
Et puis il est aussi dans un film qui est sorti l'année dernière, il me semble, qui s'appelle Sibyl, avec aussi cette actrice.
J'en ai pas entendu parler, mais c'est bon, ça va. Et l'enfant, le petit garçon, joue remarquablement bien. C'est vraiment incroyable. Je sais pas quel âge il a, vraiment, réellement, mais c'est incroyable. Le film tourne presque autour de lui, en fait. Il porte vraiment une grande partie du film.
Il y a une petite chronique spéciale, car dimanche, nous programmons Donny Darko comme ciné-club à 20h30. Donc, je vais vous faire un court synopsis de Donnie Darko et Zaël et Agathe vous en parleront. Alors, Donnie Darko est un adolescent de 16 ans, pas comme les autres. Introverti, émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul voit et entend. Une nuit, Donnie est réveillé par cet ami imaginaire qui lui demande de le suivre. Il échappe de peu à la mort cette nuit-là. Au même moment, Frank lui apprend que la fin du monde est proche. Donnie écoutera alors aveuglement Frank et provoquera une série d'événements qui sèmeront le trouble au sein de la communauté.
Très bien. Alors, Donnie Darko est un film sorti en 2001 et le 30 janvier 2002 en France. Il a été réalisé par Richard Kelly. Et c'est un film considéré comme dramatique et cinéma de fantasy. Donc, il dure environ 1h48 et il est tout public, même si il peut y avoir quelques scènes ou alors que c'est le film a plutôt une ambiance assez bizarre, on va dire, mais ouais, mais c'est pour tout public, donc si vous êtes sensible.
C'est vrai qu'à tout moment, vous retrouvez ce lapin-là dans vos
cauchemars. Ouais, c'est vrai que oui. Bon, vous pouvez voir sur l'affiche à quoi ressemble ce lapin, mais c'est vrai qu'il est un peu glauque. Donc le film a reçu de nombreuses récompenses, comme le Claude Trudis Award du meilleur acteur, donc pour Jake Gyllenhaal, le Silver Screen Award et le Young Hollywood Award de la révélation masculine. Du coup, le personnage principal qui joue Donnie Darko est interprété par Jake Gyllenhaal, qui interprète le personnage principal. Et donc, c'est le film qui va le révéler au grand public. C'est un acteur américain, âgé de 39 ans, et il avait alors 20 ans lors du film Donnie Darko. On a pu le voir récemment dans le rôle du méchant dans Spider-Man, aux côtés de Tom Holland et Zendaya. En 2019. Oh oui.
Tom Holland.
En 2017, il a joué dans le film de science-fiction Life, Origine inconnue, avec Ryan Reynolds. Ensuite, il a aussi joué dans Everest, précédemment, en 2015, ou encore Prince of Persia en 2010. Mais il a surtout joué dans le sublime film que je recommande. En plus de Donnie Darko, Le secret de Brokeback Mountain, sorti en 2005 avec l'incroyable Heath Ledger, oui. Oh, je ne prononçais pas comme ça. Mais... avec qui il forme un duo magnifique et donc que vous pouvez sûrement connaître avec le film Batman de Dark Knight qui joue le Joker. Magnifique.
Belle performance qui lui coûte la vie.
Ou pas, ça dépend.
Un petit peu.
T'es sûr?
Apparemment, oui.
Il y en a plein qui disent ça, mais bon.
Bah, c'était pas... marqué dans son petit journal quand même.
Bah, si c'est marqué sur du papier, je veux bien le croire. Donc, pour revenir à Donnie Darko, on retrouve aussi comme acteur secondaire les suivants. Donc, Jenna. Alors, je suis plus sûre, j'arrive pas à me redire.
Jenna Malone.
Qui a joué dans Into the Wild.
Et dans The Neon Demon.
Et dans Les Hunger Games. Ensuite, en autre acteur, il y a Maggie Gyllenhaal, donc la grande sœur de Jake, qui a joué dans Batman de Dark Knight. Tout est lié.
Oh, bah dis donc, tout est lié.
Et aussi Nanny McPhee. Et en autre actrice, il y a Drew Barrymore, donc la nièce de Steven Spielberg, qui a joué dans E.T.
Scream. La première scène, c'est Drew Barrymore.
Ok, oui, bah, elle a aussi joué donc, dans une série plus récente et drôle et complètement barrée. Santa Clarita Diet, que j'ai adoré.
C'est trop bien.
Rageux.
C'est bien.
Et pour finir, du coup, c'est un film bien évidemment que je recommande. Et aussi, Gabriel, tu as aimé ce film?
Ah oui, ouais, c'était super.
Mais Donnie Darko.
Non, en fait, on est dans une critique.
Donc c'est un film que j'ai bien évidemment adoré. Enfin, franchement, je pense qu'il fait partie de mon top 10. Je pense que dans mon top 10, il doit y avoir plus de 100 films, mais il m'a marqué. Et il m'a marqué parce que, d'une part, le déroulement de l'histoire et sa complexité font qu'il est hyper intéressant et hyper marquant, donc. Mais aussi son univers, en fait, assez sombre, mais qui reste quand même accès à tout public, on peut le dire. Et aussi, j'ai adoré les rebondissements un peu temporels qui font, du coup, qui font, on va dire, halluciner le spectateur. Et mention spéciale à la musique Mad World aussi. Qui...
Ah oui.
Parce que voilà, c'est magnifique. Vrai. Et donc je peux terminer avec la diffusion. Donc elle est, le Donnie Darko est diffusé au Pestel en version originale sous-titrée à 20h30 le dimanche 23 février. Présenté par nous-mêmes.
Oui.
Qui se résume à une ou deux personnes. Donc Zelle et sûrement Léon. Il est. Donc il y aura une seconde diffusion à 18h le mardi 25 février. Et on vous retrouve nombreux dimanche pour discuter avec vous et vous rencontrer.
À bientôt. Bisous, bisous.
Merci à tous.
Merci.
Gossip Girl, oui.
Clap. Le club lycéen amoureux du pastel.